السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، on a vu dans le dernier cours l'introduction de cette épître Al-Qawa'id Al-Arba', les quatre règles de Cheikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. On a vu que dans cette introduction, l'auteur rahimahullah, comme à son habitude, a fait une invocation pour le lecteur. Et on avait tiré d'immenses bénéfices de cette invocation de l'auteur rahimahullah. Et notamment, parmi les bénéfices mentionnés dans cette introduction et dans cette invocation, il y avait que le cheikh rahimahullah avait mentionné les trois causes du bonheur, qui sont le fait d'être reconnaissant lorsque Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde un bienfait, le fait que tu sois endurant lorsque Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve d'une quelconque manière, et le fait que tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu commets un péché. Ensuite, le Cheikh rahimahullah, dans la deuxième partie de l'introduction, il a mentionné l'importance de Tawhid, l'importance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, comme dans le verset que l'auteur a mentionné, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'il m'adore. Et comme il est venu dans le tafsir d'Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, ayyuwahiduni, c'est-à-dire que pour qu'il m'unifie, Et c'est ainsi que les pieux prédécesseurs ont expliqué ce verset, que le sens de que pour qu'il m'adore, c'est-à-dire que pour qu'il m'unifie. Ensuite, le Cheikh rahimahullah nous a présenté les dangers du shirk, les dangers de l'association qui annule les œuvres, l'association qui rend nulles les œuvres, l'association qui, une fois qu'elle se joint à l'adoration, la corrompt et la rend vaine, l'association qui est le plus grave péché et qui est le péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un quelconque associé. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Ensuite, le Cheikh rahimahullah, il a porté une phrase de transition entre cette introduction et les règles qu'il va évoquer en disant وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدْ ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. Et ceci en prenant connaissance de quatre règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans son livre. Et c'est ici que l'on s'était arrêté dans le dernier cours. On va voir aujourd'hui, bi'ithnillahi ta'ala, les deux premières règles que le Cheikh rahimahullah a mentionnées dans cet épître. Donc le Cheikh rahimahullah, il nous dit que on va se préserver du shirk et se mettre à l'abri du shirk bi'innillahi ta'ala en connaissant ces quatre règles. Quatre règles qui font partie des règles fondamentales de l'islam. Des règles fondamentales pour distinguer entre le musulman, le muslim, et l'associateur, le mushrik. Des règles fondamentales pour différencier entre le tawhid et le shirk. Et est-ce que ces règles sont limitées au nombre de quatre? La réponse est non. Ces règles ne sont pas limitées au nombre de quatre. Mais le Cheikh, rahimahullah, il a mentionné quatre règles et il a mentionné ce chiffre afin de simplifier à l'étudiant la mémorisation et la compréhension de cette science. Ainsi, lorsque tu auras terminé l'étude de cette épître, bi'idhnillahi ta'ala, tu vas te souvenir qu'il y a été mentionné quatre règles. Et il sera plus facile pour toi de t'en souvenir et de les mémoriser et de t'en rappeler en retenant ce chiffre. Contrairement au cas où le Cheikh rahimahullah aurait mentionné ces règles sans les distinguer par un chiffre quelconque et sans les numéroter. Ainsi, il a fait cela comme il l'a fait dans Al-Usul al-Thalatha, comme il l'a fait dans d'autres livres, et ce afin de simplifier à l'étudiant la mémorisation et la compréhension de cette science. Donc le Cheikh, il dit, rahimahullah, Al-Qa'idatu l'Ula, an ta'lama anna al-kuffar, الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Le Cheikh rahimahullah, il mentionne cette première règle qui va nous permettre de différencier entre le tawhid et le shirk, entre l'unicité et l'association, ainsi que de différencier entre le muwahhid, le muslim, et le mushrik, entre le monothéiste musulman et l'associateur. Il dit la première règle, c'est que tu saches que les mécréants, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu, reconnaissez le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le créateur, celui qui dirigeait l'univers, et cela ne les a pas fait rentrer en islam. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon le sens rapproché, dit, qui vous attribue la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront Allah. Dit alors, ne le craignez-vous donc pas? Voilà donc la première règle que le Cheikh rahimahullah a présentée. Cheikh Zayd ibn Muhammad al-Madkhali rahimahullah ta'ala dit en commentaire de cette règle: wa bayan hadhihi al-qa'ida huwa anna al-iqrar bi tawhid ar-rububiyyah bidun al-iqrar bi tawhid al-uluhiyyah wa tawhid al-asma'i was-sifat la yadkhulu fi l'islam. Dites ce qui est exposé dans cette règle, c'est que le fait de reconnaître et d'accepter l'unicité dans la seigneurie, et ce sans accepter et sans reconnaître l'unicité dans l'adoration et l'unicité dans les noms et les attributs, ne fait pas rentrer en islam. En résumé, cette règle, c'est que l'unicité dans la seigneurie n'est pas suffisante pour rentrer en islam si tu n'acceptes pas également l'unicité dans l'adoration et l'unicité dans les noms et attributs. Ensuite, Cheikh Zayd, rahimahullah, il dit: فَالْكُفَّارُ الَّذِينَ قَاتَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حين أمره الله تعالى بقتالهم إن لم يستجيبوا لدعوة الحق كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ولكن يعبدون معه غيره من الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها اعتقادا منهم بأنها تقربهم إلى الله زلفى كما ذمهم الله عز وجل بذلك الاعتقاد الفاسد وهو طلب الشفاعة من تلك المعبودات في جلب المصالح ودفع المضار. Donc le cheikh ensuite il dit, rahimahullah, les mécréants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné s'il n'acceptait pas l'appel à la vérité. Ces mécréants, ils reconnaissaient et acceptaient l'unicité dans la seigneurie. Ils croyaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le créateur, que Allah subhanahu wa ta'ala était le pourvoyeur, que Allah subhanahu wa ta'ala donnait la vie et donnait la mort. Mais malgré cela, ils adoraient avec Allah autre que lui. Et ce parmi les idoles, parmi les statues, de différentes sortes. Et ce en ayant la conviction que ces idoles et ces statues et tous les êtres qu'ils adoraient en dehors d'Allah les rapprochaient davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a également blâmés à cause de cette conviction corrompue et de cette croyance corrompue qui est la demande d'intercession. La demande d'intercession à ces divinités qu'ils adoraient. Et ce, pour obtenir des biens ou pour se prémunir d'un mal. Ou pour se prémunir d'un mal. Et la question de l'intercession sera abordée un peu plus en détail dans la deuxième règle, inshallah. Ensuite, Cheikh Zayd, rahimahullah, il dit « وَعَلَيْهِ فَمَنْ أَقَرَّ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَلَمْ يَعْتَرِفْ وَيَعْمَلْ بِتَوْحِيدِ الْأُلُوهِيَّةِ وَالْأَسْمَاهِ وَالصِّفَاتِ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا » Il dit ainsi « Quiconque reconnaît l'unicité dans la Seigneurie, mais ne reconnaît pas et ne met pas en pratique l'unicité dans l'adoration et l'unicité dans les noms et les attributs, alors il n'est pas musulman. Alors, il n'est pas musulman. وَمِنْ هُنَا فَالتَّلَازُمْ بَيْنَ أَنْوَاعِ التَّوْحِيدِ الثَّلَاثَةِ واضح وذلك أن التوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية يعني أن من أقر بربوبية الله تعالى لزمه شرعا وعقلا أن يفرده بالعبادة وحده دون سواه. Il dit à partir de là, le caractère indissociable des trois sortes de tawhid est évident. C'est-à-dire que l'unicité dans la seigneurie, elle requiert et elle exige l'unicité dans l'adoration. C'est-à-dire que quiconque reconnaît l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie, c'est-à-dire qu'il reconnaît qu'Allah est le créateur, il reconnaît qu'Allah est le pourvoyeur, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, celui qui administre tout, etc. Celui qui reconnaît cela, il lui est alors obligatoire, d'après la législation et d'après même la raison, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, seul sans associé. Et d'adorer seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, وَأَنَّ تَوْحِيدَ الْأُلُوهِيَّةِ يَتَضَمَّنُ تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ بِمَعْنَى أَنَّ مَنْ أَفْرَادَ اللَّهَ تَعَالَى بِالْعِبَادَةِ دخل في ضمن هذا الإفراد والتوجه بالعبادة لله سبحانه وتعالى وحده الاعتراف بربوبية الله عز وجل وهيمنته على جميع مخلوقاته وتصرفه المطلق فيهم بما شاء كيف يشاء وما تشاء. Il dit ensuite l'unicité dans l'adoration. Le fait que tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, cela implique nécessairement le fait que tu l'as unifié avant cela dans la seigneurie. C'est-à-dire que quiconque unifie Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration, rentre dans cela le fait qu'il l'a unifié et qu'il s'est tourné vers lui par l'adoration seul sans associé, le fait qu'il ait reconnu son unicité dans la seigneurie et qu'il a reconnu la domination d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toutes ses créatures. Et également qu'il a le pouvoir absolu d'agir sur eux comme il veut, quand il veut et de la manière qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. Wa tawhid al-uluhiyya wa tawhid al-rububiyya yastalziman tawhid al-asma' wa al-sifat 'ala al-wajh alladhi masha 'alayhi salafuna as-salih fi bab al-asma' wa al-sifat. Il dit l'unicité dans l'adoration avec l'unicité dans la seigneurie, elles sont indissociables de la du troisième type qui est l'unicité dans les noms et attributs. Et ce, selon la manière et la voie qu'ont emprunté nos pieux prédécesseurs en ce qui concerne les questions liées aux noms et aux attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh Zayd, rahimahullah ta'ala, il dit « وحيث إن القواعد الشرعية في هذا الموضوع وغيره تحتاج إلى أدلة من الكتاب والسنة فقد أورد المؤلف رحمه الله من الأدلة القرآنية قول الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Il dit ensuite Cheikh Zayd rahimahullah, et étant donné que les règles religieuses, les règles de notre législation à ce sujet ainsi que dans tout sujet ont besoin d'être basées sur quoi? Sur des preuves du Coran et de la Sunna. Alors l'auteur rahimahullah a mentionné parmi les preuves du Coran la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon le sens rapproché, dit « Qui vous attribue la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort? Et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront Allah. Dit alors, ne le craignez-vous donc pas? Ne le craignez-vous donc pas? » فَقَوْلُهُ تَعَالَى فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ وَمَحَلُ الشَّاهِدُ وهو أنهم اعترفوا بأن الله هو الذي يرزق عباده وينزل الغيث ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر أقر بذلك ومع ذلك هم يشركون معه غيره وهذا هو فساد المعتقد فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكنهم لا يقرون بتوحيد الألوهية كما أراد الله منهم فصاروا مشركين. Il dit donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils diront Allah, فسيقولون الله, ils diront Allah. Ceci est ce qui est visé dans le verset. Et c'est pourquoi le Cheikh rahimahullah a mentionné ce verset. C'est-à-dire que les associateurs du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont reconnu que Allah subhanahu wa ta'ala était celui qui pourvoyait la subsistance à ses serviteurs, qu'il était celui qui fait descendre la pluie du ciel, qui est celui qui fait sortir le vivant du mort et qui fait sortir le mort du vivant, et qui est celui qui administre tout. Ils ont reconnu cela. Et malgré cela, ils lui ont donné des associés. Ils lui ont associé autre que lui. Et ceci est leur croyance corrompue. Et ceci est la corruption de leur croyance. Donc, ils ont cru à l'unicité dans la seigneurie, mais cependant, ils n'ont pas reconnu l'unicité dans l'adoration. Et ce, à la manière qu'Allah Azzawajal l'a voulu. Et de ce fait, ils ont été des associateurs. Donc, ce qui a fait qu'ils ont été associateurs, ce n'est pas le fait qu'ils n'ont pas cru que Allah est le créateur. Ce n'est pas le fait qu'ils n'ont pas cru que ce n'est pas Allah qui donne la subsistance. Ce n'est pas le fait qu'ils ont cru que c'était autre qu'Allah qui donnait la vie et la mort. Non, ils reconnaissaient tout cela. Et ils savaient que seul Allah subhanahu wa ta'ala avait ses attributs. Cependant, Ce qui a fait d'eux des associateurs, c'est qu'ils lui ont donné des associés dans l'adoration. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh Zayd, rahimahullah, il dit وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ مَا جَاهَ مِنَ التَّحْذِيرِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ التَّوَجُّهِ بِالْعِبَادَةِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ كَمَا فِي قَوْلِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَكَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ وَكَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ نَظَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْ وَمَنْ نَظَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِيهِ كُلُّ هَذِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه بها المكلف إلى الله وحده. Il dit parmi les preuves de la sunna, il y a tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme mise en garde contre le fait de s'orienter par l'adoration vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah maudisse quiconque sacrifie pour autre qu'Allah. Ou comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation et l'adoration. Ou comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque fait le serment d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Et quiconque fait le serment de désobéir à Allah, alors qu'il ne lui désobéisse pas. Tout ceci sont des différentes formes d'adoration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de vouer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, كما أن من الأدلة على كفر من أقر بتوحيد الربوبية ولم يقر بتوحيد الألوهية إذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في جهاد هؤلاء الذين أقروا بربوبية الله عز وجل ولم يقروا بوحدانيته بل عبدوا معه غيره. Il dit également parmi les preuves de la mécréance de celui qui reconnaît l'unicité dans la seigneurie mais qui ne reconnaît pas l'unicité dans l'adoration. Il y a la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre ces mécréants qui ont reconnu seulement l'unicité dans la seigneurie et qui n'ont pas reconnu l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans l'adoration. Au contraire, ils ont plutôt adoré avec lui, autre que lui, subhanahu wa ta'ala. هذه أدلة شرعية والعقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح إذ إن الدليل العقلي يدل على أن الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف في الكون هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وحده دون سواه. Il dit ceci sont donc des preuves religieuses. Il dit la raison correcte et la raison juste, elle ne s'oppose pas au texte authentique. C'est-à-dire que la preuve rationnelle t'indique que celui qui t'a créé, celui qui a pourvoyé ta subsistance, celui qui te donne la vie et te donne la mort, celui qui administre l'univers, est celui qui mérite d'être unifié dans l'adoration, seul sans associé. Seul sans associé. Amma alladhi lam yakhluq أما الذي لم يخلق سماء ولا أرضا ولا بشرا ولا جنا ولا شيئا من المخلوقات لا يستحق من العبادة شيئا. Il dit donc, quant à celui qui n'a créé ni ciel, ni terre, ni homme, ni djinn, ni quoi que ce soit parmi les créatures, il ne mérite en aucun cas qu'une quelconque forme d'adoration lui soit vouée. فتضافرت الأدلة النقلية والأدلة العقلية على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة له وحده دون سواه. Les preuves rationnelles et les preuves textuelles, elles se rejoignent quant au fait de prouver qu'il est obligatoire d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration seul en dehors de tout autre que lui. وعلى وجوب الإقرار بربوبيته وتصرفه المطلق في عالم السماء وعالم الأرض وفق حكمته ووجوب الإقرار بذاته وأسمائه وصفاته على الوجه اللائق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. Il dit également, les preuves rationnelles et les preuves textuelles, elles se rejoignent pour démontrer l'obligation de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la Seigneurie et son pouvoir d'agir absolu sur le monde, sur l'univers du ciel, l'univers de la terre, et ce, selon sa sagesse, et qu'il est obligatoire de reconnaître l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses noms et ses attributs, et ce, d'une manière qui convient à sa grandeur et à sa noblesse, subhanahu wa ta'ala. Voilà donc le commentaire de Cheikh Zayd al-Matrali, rahimahullah, de cette première règle. Et on tire de cette première règle de nombreux bénéfices, et on se contentera de n'en citer que quatre. Parmi les bénéfices que l'on tire de cette première règle, c'est le fait que reconnaître l'unicité dans la Seigneurie seulement ne fait pas rentrer dans l'islam et n'est en aucun cas profitable. Reconnaître seulement l'unicité dans la Seigneurie ne fait pas rentrer dans l'islam et n'est pas profitable. Sur l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit « Tawhid al-Rububiyya, qad kana al-mushrikoun yuqirruna bihi, wa dhalika wahdahu la yanfa'. » Il a dit « L'unicité de la Seigneurie, certes les associateurs reconnaissaient cela, et ceci seul n'est pas suffisant et ne profite pas, et ceci seul n'est pas profitable. » C'est-à-dire qu'il doit être accompagné de quoi ? De l'unicité dans l'adoration et l'unicité dans les noms et attributs. Le Cheikh Al-Harras, rahimahullah ta'ala, il a dit « I'lam anna tawhid al-rububiyya wahdahu la yakfi li tahqiq ma'ana tawhid al-matloub shar'an. » Il a dit « Sache que l'unicité dans la Seigneurie seule n'est pas suffisante pour concrétiser le sens du tawhid demandé légalement. » Pour concrétiser le sens du tawhid demander légalement. Donc celui qui reconnaît l'unicité dans la Seigneurie et qui ne reconnaît pas l'unicité dans l'adoration, ou qui reconnaît l'unicité dans la Seigneurie mais qui donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. La deuxième faïda, le deuxième bénéfice que l'on tire de cette règle, c'est que l'unicité de la Seigneurie n'est pas la chose qui fait la différence et qui nous permet de distinguer entre le croyant et l'associateur. Pourquoi ? Parce que ils reconnaissent tous cela. Ils reconnaissent tous cela. Que ce soit les associateurs ou les croyants, ils reconnaissent tous que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à avoir créé l'univers. Ils reconnaissent tous que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à donner la vie et donner la mort. Donc cela ne nous permet pas de distinguer entre le croyant et entre l'associateur. Mais ce qui va nous permettre de distinguer entre le croyant et l'associateur, c'est quoi ? C'est l'unicité dans l'adoration. C'est l'unicité dans l'adoration. Et c'est cela qui va nous faire permettre de faire la distinction entre le musulman et l'associateur. Le troisième bénéfice que l'on tire de cette règle, c'est que les messagers d'Allah alayhi mussalatu wassalam n'ont pas été envoyés pour appeler ou pour ordonner l'unicité dans la Seigneurie. Pourquoi ? Parce que leur communauté et leur peuple reconnaissaient cela. Leur communauté et leur peuple reconnaissaient déjà cela. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit dans Madarij al-Salikin, لم تدعو الرسل قط الأمم إلى الإقرار بالصانع وَإِنَّمَا دَعَوْهُمْ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ. Il dit, les messagers n'ont en aucun cas appelé leur peuple à reconnaître le Créateur, parce qu'ils le reconnaissaient. Ensuite il dit, mais ils les ont seulement appelés à l'adorer et à l'unifier. Ils les ont seulement appelés à l'adorer et à l'unifier. Donc les prophètes, alayhimus salat wa salam, ils n'ont pas appelé leur peuple à leur dire, Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à vous avoir créé. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à vous donner votre subsistance, à vous donner la vie, à vous donner la mort, etc. Mais ils ont appelé simplement leur communauté et leur peuple à unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجَتَنِبُ التَّاغُوتِ. Nous avons envoyé un messager dans chaque communauté. Pour leur dire quoi ? adorez Allah et écartez-vous du tagout. Adorez Allah, écartez-vous du tagout. Et ceci est l'appel des messagers. L'appel des messagers, donc l'appel à l'unicité dans l'adoration. Parmi les bénéfices également que l'on tire de cette règle, et c'est le quatrième et dernier que l'on mentionnera, bien qu'il y en a encore beaucoup d'autres, c'est le fait que d'expliquer le sens de kalimat al-tawhid, la parole de l'unicité, la shahada, la ilaha illallah, de l'expliquer et de lui donner le sens de la khaliqa illallah, il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah, ceci est une explication qui n'est pas correcte. Ceci est une explication de kalimat al-tawhid qui n'est pas correcte. Parce que si cela était son sens, les associateurs du peuple de Quraysh, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, seraient rentrés en islam. Car, comme on l'a vu, ils reconnaissaient que Allah subhanahu wa ta'ala était le seul créateur. Ils reconnaissaient que Allah subhanahu wa ta'ala était le seul à donner la vie et à donner la mort. Mais ils ne voulaient pas unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et c'est pour cela qu'ils ont refusé de dire « La ilaha illallah ». Ils ont refusé de dire « La ilaha illallah ». Et son sens correct et l'explication correcte de « La ilaha illallah » c'est « Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah ». Subhanahu wa ta'ala. Voici donc quelques bénéfices que l'on tire de cette première règle que le Shir rahimahullah a mentionné et qui en résumé le fait que l'unicité dans la seigneurie et le fait de reconnaître l'unicité dans la seigneurie n'est pas suffisant pour rentrer en islam. Ensuite, le Shir rahimahullah ta'ala, il dit Al-qa'idatu thaniya annahum yaqulun ma da'awnahum وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Donc le Cheikh rahimahullah, il dit la deuxième règle, c'est qu'ils disent nous ne les avons invoqués et nous sommes orientés vers eux, c'est-à-dire par l'adoration, que pour leur demander le rapprochement et l'intercession, c'est-à-dire le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'intercession. Ensuite, il dit la preuve de la demande de rapprochement, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon le sens rapproché, c'est à Allah qu'appartient la religion pure. Ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergeaient. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. Et la preuve concernant l'intercession est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le sens rapproché. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire ni leur profiter. Et ils disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Voilà donc la deuxième règle que le Shir rahimahullah ta'ala a mentionnée. En résumé, comme on a vu, dans la première règle, le Shir rahimahullah nous a mentionné que les associateurs reconnaissaient que Allah subhanahu wa ta'ala était le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort. Et ici le Shir rahimahullah, il nous explique donc dans cette règle pourquoi donc il se rapprochait d'autre qu'Allah. Pourquoi donc il se rapprochait d'autre qu'Allah. Et leur objectif était seulement de se rapprocher davantage d'Allah et d'obtenir l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'ils adoraient autre qu'Allah. Cheikh Zayd rahimahullah ta'ala, il dit هذه القاعدة تضمنت أمرين. Cette règle, elle implique deux choses. Elle nous implique, elle comprend deux choses. الأمر الأول شبهة هؤلاء الكفار التي أضلوا بها في عصر النبوة وورثها المشركون في كل زمان ومكان. هذه الشبهة التي ظنوها حجة لهم هي قولهم ما دعونا أي تلك الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. La première chose que comprend cette règle, c'est l'ambiguïté de ces mécréants et la preuve sur laquelle ils se sont basés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a été héritée par les associateurs à toute époque et en tout endroit. Et cette ambiguïté qu'ils ont pensé être une preuve et un argument pour eux et leurs paroles, nous ne les avons invoquées, nous ne les invoquons, c'est-à-dire ces statues et ces idoles, de différentes sortes. Et nous sommes orientés vers eux que pour demander le rapprochement et l'intercession. أي لم نطلبهم ذلك لأنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون أحدا يعني لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا ولا إحياء ولا إماتة ولكن من أجل القربة إلى الله والشفاعة عنده اتخذناهم معبودات وآلهة من دون الله سبحانه وتعالى ورجونا منهم جلب المصالح ودفع المضار هذه الحجة فندها الله تعالى في عدة آيات. Le cheikh rahimahullah, il dit donc, cette ambiguïté qu'ils ont cru donc être une preuve pour eux, et leurs paroles nous ne les avons invoquées, c'est-à-dire ces idoles et ces statues, de différentes sortes. Et nous sommes orientés vers eux que pour leur demander le rapprochement et l'intercession. C'est-à-dire, nous ne leur avons pas demandé cela en pensant qu'ils créaient ou en pensant qu'ils donnaient la subsistance, qu'ils donnaient la vie ou qu'ils donnaient la mort à quiconque. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la conviction qu'ils avaient le pouvoir de créer ou le pouvoir de donner la vie ou de donner la mort. Mais c'était seulement pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour demander l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent, c'est pour ça qu'ils les ont pris comme divinité et comme être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent qu'ils n'ont espéré d'eux que qu'ils leur apportent des bienfaits et qu'ils repoussent d'eux des mals. Et cet argument, Allah subhanahu wa ta'ala l'a annulé et l'a rendu vain dans de nombreux versets du Coran. Parmi ces versets, le verset que le shir et l'auteur rahimahullah, il a mentionné, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ala lillahi d-dinul khalis, walladhina attakhadhu min dunihi awliya, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, inna Allaha yahkumu baynahum fima hum fihi yakhtalifun. » Parmi les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a annulé cette ambiguïté, il y a la parole que l'auteur rahimahullah l'a mentionné. Et c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le sens rapproché. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergeaient. « ثم حكم عليهم بالكفر في قوله تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار » Allah subhanahu wa ta'ala, il les a jugés mécréants dans ce verset. Lorsqu'il a dit Et certes, Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. وَمِنْ جُمْلَةِ هَوْلَا الْكَاذِبِينَ الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا يَرْجَوْنَ مِنْهُمْ جَلْبَ الْمَصَالِعِ وَدَفْعَ الْمَضَارِ وَيَرْجَوْنَ مِنْهُمْ إِنْجَابَ الْوَلَدْ وَشِفَاءَ الْمَرِيدْ وَالْأَمْنْ وَنَفْيَ الْخَوْفِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحْدَ دُونَ سِوَى. Et parmi ces menteurs et ces mécréants, ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils espèrent de ces protecteurs qu'ils leur apportent des bienfaits, qu'ils repoussent d'eux des nuisances, ils espèrent d'eux qu'ils leur accordent une descendance, des enfants, qu'ils guérissent leurs malades, qu'ils leur apportent la sécurité, qu'ils les préservent de la peur et toute autre chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala, seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir en dehors de tout autre que lui. Cheikh Zayd rahimahullah ta'ala, il dit ensuite: فَيُقَالُ لِهَا هُلَا مَا دُمْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقِ الْقَادِرِ الْمُحِيطِ بِكُلِّ شَيْءٍ وَالسَّمِيعِ وَالْبَصِيرِ لِمَاذَا لَا تَتَوَجَّهُنَ إِلَيْهِ فِي طَلَبِ قَضَاهِ الْحَاجَةِ وَكَشْفِ الْكُرْبَةِ وكل ما يحتاج إليه الإنسان البشري. Il dit Cheikh Zayed rahimahullah, donc nous disons à ceux-là, nous leur disons à ces gens, à partir du moment où vous croyez que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses et qu'il a connaissance de toutes choses, qu'il est celui qui entend et qui voit tout, pourquoi ne vous orientez-vous pas vers lui pour lui demander ce que vous avez besoin et de combler vos besoins et de vous sortir de toutes vos difficultés? Et pourquoi vous ne lui demandez pas tout ce dont a besoin l'être humain, vu que vous avez cette croyance qu'il est le seul à avoir créé et qu'il est capable de toutes choses, etc. فالله عز وجل هو الذي يقضي فلا يحتاج إلى واسطة لأنه صاحب الكمال المطلق والعلم المحيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء من ذوات بني آدم ولا من أعمالهم ولا من أقوالهم وأفعالهم ولا من حاجاتهم ولا ما توسوس به أنفسهم كل ذلك معلوم لله سبحانه وتعالى قد أحاط به علمه وأحصاه عدده. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui pourvoit aux besoins de ses serviteurs. Et il n'a pas besoin que l'on prenne des intermédiaires. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détient la perfection absolue. Sa science englobe toute chose. Rien ne lui échappe. Rien n'est caché à Allah subhanahu wa ta'ala parmi les enfants d'Adam. Que ce soit leurs œuvres, que ce soit leurs paroles, que ce soit leurs actes, que ce soit leurs besoins, et ce, même ce que leur insuffle leur âme, Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de tout cela. Et rien de cela ne lui échappe. Voilà donc la première chose que comprend cette règle et que le Cheikh rahimahullah a mentionné. Il dit ensuite, الأمر الثاني بيان أنه لا حاجة إلى الوسائط المحرمة بنص الكتاب والسنة في جلب المصالح ودفع المضار بنص الكتاب والسنة. Il dit la deuxième chose, c'est de prouver qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire illicite. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire illicite pour obtenir les bienfaits ou repousser les maux, et ce d'après les textes du Coran et de la Sunna. إنما الواسطة المشروعة التي يجب اتباعها هي واسطة الرسالة أي الرسل الذين هم الوسائط بين الله وبين الخلق وهم الذين يجب أن يتخذوا وسائط بمعنى أن نأخذ العلم منهم في العقيدة والشريعة ونتبعه بالعمل. Il dit mais les seuls intermédiaires qui sont légiférés et qu'il est obligatoire de suivre, c'est l'intermédiaire du message, de la transmission du message, c'est-à-dire les messagers d'Allah alayhi salat wa salam, ceux qui sont des intermédiaires entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures. Ce sont ceux qu'il est obligatoire de prendre pour intermédiaire entre nous et Allah, c'est-à-dire que l'on prend la science d'eux. Et la science, on prend la science d'eux dans la aqida, dans la croyance et dans la législation, dans les œuvres. Et on fait suivre cette science par quoi ? Par la mise en pratique. Donc voilà les intermédiaires qu'il y a entre nous et Allah. Et attention, cela ne veut pas dire qu'ils doivent être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas qu'on lui donne un quelconque associé, même parmi les prophètes, même parmi les anges ou autres. Mais ce qui est voulu par là, dans le fait qu'ils soient des intermédiaires, c'est qu'ils sont des intermédiaires entre nous et Allah, dans le sens où ils nous ont transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit donc les suivre dans la science qu'ils nous ont donnée dans la aqidah et dans la législation. Et on doit faire suivre cette science par la mise en pratique de cette science. Ensuite, Cheikh Zayed rahimahullah, il dit « Amma sa'irul khalq, fala yakhlu alladhi turja minhu alwasita walshafa'a walqurba » Quant au reste des créatures que les gens prennent pour intermédiaires et espèrent d'eux, donc ils soient des intermédiaires, ils espèrent leur intercession et j'espère qu'ils les rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que ces gens-là seront ou bien vivants ou bien morts. Ensuite, le shir rahimahullah va nous expliquer le jugement dans le cas où ils sont vivants et dans le cas où ils sont morts. فَإِذَا كَانَ مَيِّتًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُطْلَبَ مِنْهُ شَيْءٌ مُطْلَقًا لَا فِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَلَا فِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْبَشَرُ. Il dit dans le cas où il est mort, alors il est interdit de lui demander quoi que ce soit, et ce de manière absolue, que ce soit une chose que l'homme est capable à la base d'accomplir ou une chose que l'homme n'est pas capable d'accomplir. Ceci est interdit. S'il est mort, ceci est interdit. Ensuite, il dit أما رجاء الشفاعة أو القربة أو قضاء الحاجة من الحي فهذا لا يخلو من حالين. Il dit quant au fait d'espérer l'intercession ou le rapprochement ou l'accomplissement d'un besoin d'une personne vivante, alors ceci comprend deux situations. Ceci comprend deux situations. La première, إما أن يكون داخلا تحت قدرة البشر وكان حاضرا أو في حكم الحاضر. Il dit la première, c'est si on espère de lui une chose qui est dans les capacités de l'être humain, et que cette personne vivante est présente, ou qu'elle a le jugement d'une personne présente. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à l'absent. Et le shir, rahimahullah, lorsqu'il dit ou qu'elle a le jugement d'une personne présente, il vise par cela le fait de demander, par exemple, l'intercession ou de l'aide ou d'accomplir un besoin à une personne absente, mais par laquelle on est en communication avec les moyens de communication modernes, comme Internet, comme le téléphone, etc. Donc celle-là, la personne, elle a le jugement d'une personne présente, dans le sens qu'on communique avec elle, et qu'elle peut, elle a les capacités de nous aider à combler notre besoin. Le deuxième cas, il dit وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ خَارِجًا عَنْ قُدْرَةِ الْبَشَرِ فإن كان خارجا عن قدرة البشر فلا يجوز أن تطلب منه الشفاعة أو قضاء الحاجة بل يعتبر هذا من الشرك الأكبر كما فعله كفار قريش وغيرهم. Il dit le deuxième cas, c'est le fait que cela ne soit pas dans les capacités de l'être humain. Il dit dans ce cas-là, si cela n'est pas dans les capacités de l'être humain, alors il n'est pas permis de demander l'intercession ou l'accomplissement d'un besoin, car ceci est considéré comme de l'association majeure. Et c'est ce que faisaient les mécréants du peuple de Quraysh et autres que parmi les peuples qui les ont précédés. Le fait qu'une personne demande l'intercession ou autre chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir. Donc le fait qu'une personne demande à un être humain vivant une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir, alors ceci est considéré comme de l'association majeure et fait sortir de l'islam. Comme le fait de demander le paradis, le pardon des péchés ou toute autre chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir. Ensuite il dit « Amma idha kana al-matloub » مما هو داخل تحت قدرة البشر كالإعانة في شيء مقدور عليه والإمداد كذلك وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان البشري فهذا شيء جاهز مع تعلق القلوب بأن الله عز وجل هو قاضي الحاجة وهو الذي يفرج القربة وهو الذي يقضي في كل شيء ويحكم لا معقب لحكمه.
Quant au cas où la chose qui est demandée est une chose qui rentre dans les capacités de l'être humain, comme le fait d'aider une personne en accomplissant une chose que tu es capable de faire, ou autre chose parmi les choses que l'être humain peut avoir besoin. Alors ceci est permis. Après le shir, il dit tout en, attention, il fait une remarque très importante, tout en rattachant les cœurs à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que les cœurs soient liés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que c'est lui qui comble ton besoin. Et que c'est lui qui te fait sortir des difficultés. Et qu'il est celui qui accomplit toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shir, rahimahullah, il dit والحجة الثانية التي أضل بها ليسوغوا صحة صنيعهم في عبادة الآلهة هي ما دل على ذمها قول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
La deuxième preuve et le deuxième argument dont ils se sont servis pour essayer de prouver l'authenticité de leur acte dans l'adoration des fausses divinités, c'est ce qui est mentionné dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle il condamne cela, qui est sa parole selon le sens rapproché. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire ni leur profiter, et disent ceci sont nos intercesseurs auprès d'Allah.
يعني هم ما أنكروا وجود الله ولا أنكروا قدرته وربوبيته ولكن قالوا إنهم لا غنى لهم عن واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وهي الواسطة المذمومة التي تتجلى في اتخاذ تلك المعبودات من أحجار وأشجار وأخشاب والشمس وقمر ونجوم وأولياء الصالحين إلى غير ذلك مما هو معلوم من دين الإسلام آلهة من دون الله سبحانه وتعالى وقد حذر الله جل وعلا في ذلك وحذر منه نبيه صلى الله عليه وسلم وكل عالم رباني يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وينهج نهجه ويتبع أثره.
Il dit, c'est-à-dire que ces mécréants, le peuple de Quraysh, ils n'ont pas renié l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas renié non plus la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa seigneurie. Mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas se passer d'intermédiaire entre eux et Allah. Qu'ils ne pouvaient pas passer d'intermédiaire entre eux et Allah. Et ceci est leur ambiguïté. Et cet intermédiaire, c'est l'intermédiaire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a condamné dans le Coran. Et c'est ce qu'ils prennent comme divinité parmi les pierres, parmi les arbres, parmi le soleil, la lune, les étoiles, les personnes pieuses, etc. Tout ce qui est connu dans la religion comme étant des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal nous a mis en garde contre cela. Ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tout savant rabbani, qui transmet le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a emprunté sa voie, suivi son ménage, et qui a suivi ses traces sallallahu alayhi wa sallam. Tous mettent en garde contre le fait de prendre des intermédiaires entre eux, les créatures et Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, après avoir mentionné ses preuves, il nous explique les différentes formes d'intercession. Et il dit, rahimahullah,
« وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَةً شَفَاعَةٌ مَنْفِيَّةٌ وَشَفَاعَةٌ مُثْبَتَةٌ فَالشَّفَاعَةُ الْمَنْفِيَّةُ مَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ فِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ وَالدَّلِيلُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
L'intercession est donc de deux sortes. Il y a l'intercession qui a été renié dans le Coran. Il y a l'intercession qui a été confirmée dans le Coran. Quant à l'intercession qui a été reniée dans le Coran, c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir. Et la preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon les sens rapprochés. Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et les mécréants, ce sont eux les injustes. Et les mécréants sont certes eux les injustes. Le deuxième type d'intercession est l'intercession qui a été confirmée dans le Coran. Et c'est celle qui est demandée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'intercesseur, il est honoré par l'intercession.
C'est-à-dire que l'intercesseur, c'est un honneur que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait en lui permettant d'intercéder. Et celui pour qui on intercède, c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a agréé ses paroles et ses actes, et ce après qu'il ait donné sa permission. C'est-à-dire ce après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait donné la permission que l'on puisse intercéder pour lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Et qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Et qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Cheikh Zayd rahimahullah ta'ala, il dit: أقول قد بين الله تبارك وتعالى حكم الشفاعة وما هو المثبت منها وما هو المنفي يعني ما هو الذي يجب إثباته واعتقاده بأنه ثابت وحق وما هو الذي يجب نفيه والحكم عليه بالبطلان بمقتضى نصوص السنة والقرآن. Il dit, je dis que Allah subhanahu wa ta'ala nous a certes exposé et démontré le jugement de l'intercession. Et qu'est-ce qui est confirmé dans l'intercession et qu'est-ce qui est renié dans l'intercession? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est obligé de confirmer? Qu'est-ce qu'il est obligé d'affirmer? Et qu'est-ce qu'il est obligé de croire? Car c'est une vérité confirmée. Et qu'est-ce qu'il est obligatoire de renier et de poser le jugement de fausseté dessus? Et ce, d'après les textes de la Sunna et du Coran. فاستخلص المصنف رحمه الله من هذه النصوص التي منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ومن قوله ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فذكر أن شفاعة تنقسم إلى قسمين شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. Donc l'auteur رحمه الله, il a résumé d'après les textes, en citant deux versets du Coran, qui sont ce que l'on vient de citer, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où les croyants dépensaient de ce que nous vous avons attribué, afin que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession, et les mécréants sont eux les injustes. Ainsi que sa parole subhanahu wa ta'ala, et qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Donc il a évoqué le fait que l'intercession se divisait en deux catégories. Une intercession qui a été affirmée et confirmée, et une intercession qui a été infirmée et reniée. Comme on le voit dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dément l'existence de l'intercession. Il dit le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'intercession ce jour-là. Ensuite, dans le deuxième verset, il affirme et confirme l'intercession. Il dit, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? On comprend donc qu'il y a une forme d'intercession qui est interdite et il y a une forme d'intercession qui est permise, et ce sont dans certaines conditions. Cheikh Zayd rahimahullah, il dit وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ شَفَاعَةَ الْمُذْبَتَةَ هِيَ الَّتِي أَذْبَتَهَا الْقُرْآنَ وَهِيَ الَّتِي تُطْلَبُ مِنَ اللَّهِ وَلَهَا شَرْتَانَ الشَّرْتُ الْأَوَّلِ إِذْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلِّ الشَّافِعَ أَنْ يَشْفَعَ وَالشَّرْتُ الثَّانِي الرِّضَ مِنْهُ تَبَارَكَ اسْمُهُ عَنِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ وَبِهَذَانِ الشَّرْتَيْنِ تَكُونَ الشَّفَاعَةُ مُذْبَتَ وَشَرْعِيَّةَ. Il dit donc la différence entre l'intercession qui a été confirmée. C'est que c'est celle qui a été confirmée et affirmée dans le Coran. Et c'est celle qui est demandée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle a deux conditions. La première, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala donne la permission à l'intercesseur d'intercéder. C'est-à-dire qu'il n'est permis à personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala d'intercéder sans que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la permission. Pas même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pas même les anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni toute autre créature. Donc on voit que ceux qui demandent l'intercession à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui disent Ash-shafa'a ya Rasulullah, l'intercession au messager d'Allah, ils demandent l'intercession directement au messager d'Allah. Ceci est interdit, ceci est de l'association. Pourquoi? Car l'intercession, les créatures ne peuvent intercéder qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala donne la permission à l'intercesseur d'intercéder, il pourra intercéder. En dehors de cela, une personne ne peut intercéder. La deuxième condition, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala agrée celui pour qui on intercède. Et cela veut dire que l'on ne peut pas intercéder pour les associateurs ou pour les mécréants. Mais seuls les monothéistes, ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a agréé les paroles et les actes, ceux-là seront ceux pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala pourront intercéder yawm al-qiyama. Et en remplissant ces deux conditions, l'intercession est donc confirmée et elle est légale. Elle est légale et légiférée. Amma shafa'atul manfiya fa hiya allati nafaha al-Qur'an wa hiya allati tutlabu min ghayri Allah fima la yaqdiru alayhi illa Allah tabarak wa ta'ala kama sana'a al-mushrikun alladhina talabu min ghayri Allah 'azza wa jalla ash-shafa'a fi jalb al-masali' wa daf' al-madar 'ala ikhtilafi anwa' al-masali' wa ikhtilafi anwa' al-madar al-fardiyya wa al-jama'iyya. Quant à l'intercession qui a été démentie dans le Coran, c'est celle que le Coran donc a démentie et a infirmée. Et c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, pour une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir, comme l'ont fait les associateurs qui ont demandé l'intercession à autre qu'Allah en demandant le fait d'obtenir des bienfaits ou de repousser des nuisances et des méfaits, quelles que soient les formes de bienfaits ou de méfaits, et ce, que ce soit des bienfaits ou des méfaits individuels ou collectifs. Voilà donc ce que le Cheikh rahimahullah, il a voulu mentionner dans cette règle. Le résumé de cette règle, c'est que les associateurs de Quraysh, et ce jusqu'à nos jours, certains prétendent que ils ont pris des protecteurs en dehors d'Allah et les ont adorés, et que leur seul objectif dans cela n'est que de se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir l'intercession, d'obtenir leur intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc leur but final était de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala les a jugés dans son livre comme étant mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala les a jugés dans son livre comme étant mécréants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et ce, en demandant l'intercession à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici donc l'essentiel de ce qui a été mentionné dans ces deux premières règles. Et on verra les deux prochaines règles dans le prochain cours. Incha'Allah ta'ala. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima khulna innahu waliyu thalika wal qadiru alayh wa sallallahu wa sallam wa barak على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.